Bonjour, ici David et bienvenue à la saison 3 de Quelle Histoire. J'espère que t'as la pêche. Ça me fait toujours plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. Alors, je t'explique. Dans chaque épisode, je déroule le tapis rouge pour un ou une invitée qui se démarque dans notre société. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Abonne-toi pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes. Like, parce que c'est un bon petit moment passé ensemble. Et partage, parce que ça ne mange pas de pain. Aujourd'hui, je me pose avec une dame, une humoriste, une grande fervente des égalités raciales et une caricaturiste de notre société. Elle s'est entre autres fait connaître pour sa parodie sur le fufu, mais plus connue sous le nom de Fufu, un mets populaire africain. Elle a connu la précarité, la rue et les drogues dures. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie avec un regard judicieux sur notre société. Alors, je vous laisse découvrir qui est Gabi Gatineau. Salut Gabi, comment vas-tu?
Ça va bien, quoi, David?
Très bien, très bien. Comment te traite la vie ces derniers jours?
Ça va bien. J'ai vraiment des belles opportunités ce mois-ci. Je suis vraiment plus dans mon humour puis je suis vraiment consacrée à tous mes projets. J'ai vraiment l'impression que cette année, ça va être gros pour moi.
2023 commence bien.
Ouais.
D'accord. Mais écoute, on va faire un petit retour en arrière et je te demanderai de nous faire un petit survol de ta vie, ton enfance et ton adolescence. Qui est Gabi?
Petit survol, je te jure. Le monde me dit, fais un petit survol. C'est que je pourrais parler pendant des heures de ma vie.
D'accord.
Parce que c'est intense, c'est compliqué. Mais comme que je dis en humour, ma vie, elle est compliquée. Mais tout le monde va être capable de se ressembler un peu dedans.
Mm-hmm.
Donc, ma mère est immigrante de l'Italie, mais elle est allemande. Elle arrive ici, elle s'est fait abuser par son père. Et elle décide de rester ici au pays, puis elle devient prostituée. Et elle tombe dans l'enfer de la drogue et l'alcool et elle meurt. Moi, je suis née étant un bébé en sevrage, difficulté à parler, difficulté à grandir, difficulté à... Je vomis beaucoup, je suis un bébé qui est très, très dur et la DPJ s'occupe de moi pour ensuite être adoptée dans une famille portugaise-québécoise.
D'accord.
À l'âge de 2 ans, dans une grosse, grosse famille où est-ce qu'ils ont déjà 5 enfants en tout, mais 6.
Mm-hmm.
Puis, quand j'ai grandi, à cause des séquelles, je suis moi-même tombée dans la drogue à cause que j'ai développé des problèmes de santé mentale.
Mm-hmm.
Je suis devenue très, très violente et ma famille adoptive ont dit à un certain moment donné, si t'es pas prête à prendre l'aide psychologique qu'on va te donner, on va être obligé de te mettre dehors.
Mm-hmm.
Alors, à 18 ans, j'ai fait mes propres choix. Puis, j'ai décidé de partir de la maison. J'ai été en situation d'itinérance pendant 1 an. J'ai été dans plusieurs relations abusives avec la drogue et les hommes.
D'accord.
Et
les hommes, c'est une drogue aussi.
Ouais, non, je peux te le confirmer. Oh my God, I don't know. Je sais pas c'est quoi qu'il y a pour de vrai, là. Mais c'est ça, donc, je tombe dans la drogue pendant 10 ans. 10 ans d'enfer, 10 ans à ne pas me responsabiliser, ne pas prendre mes conséquences, mes actions pour moi-même, et tout le temps blâmer sur les autres, pauvre de moi, j'ai été adoptée. Donc, je jouais à la victime pendant 10 ans de ma vie jusqu'à un moment donné que j'ai voulu me suicider. Puis à ce moment-là, j'ai eu un message de Dieu et je ne croyais pas à Dieu à ce moment-là. Et j'ai décidé d'aller en maison de rétablissement.
Mm-hmm.
Et ça fait maintenant 6 ans que je me rétablis. J'ai décidé de vraiment changer ma vie au complet, de me conscientiser sur les choses autour de moi, de devenir une meilleure personne, de vraiment enlever mon ego au complet, de m'éduquer parce que pendant 10 ans, j'ai rien fait de ma vie.
Mm-hmm.
Tu sais, comme oui, l'accès à Internet était là, mais je l'utilisais pas pour apprendre des choses. Fait que j'étais vraiment stupide et naïve du monde au complet.
Mm-hmm.
Et j'ai commencé à avoir une passion pour m'éduquer sur plusieurs sujets.
Mm-hmm.
Et à partir de là, avec 6 ans d'abstinence, j'ai décidé de je peux être un exemple pour les autres et à vouloir justement parler de la sobriété, du rétablissement, faire de la prévention sur la drogue et l'alcool. Puis c'est ça que je fais des conférences maintenant là-dessus. Puis along the way, qu'est-ce qui s'est passé avec justement la mort de George Floyd? J'ai voulu justement m'éduquer un petit peu plus sur le racisme et qu'est-ce qui entourait ces choses-là et le privilège blanc. J'ai justement sorti 2 livres pour éduquer la prochaine génération sur ces sujets-là.
donc on va revenir en arrière, on va revenir sur ça tout à l'heure.
Ouais.
Mais pour revenir à ton enfance et à la manière dont tout s'est passé, est-ce que tu es en contact avec ta mère?
Ma mère biologique?
Biologique, oui.
Non. Ma mère biologique, je l'ai rencontrée quand j'avais 19 ans. C'est moi qui ai fait les procédures pour la rencontrer.
Mm-hmm.
J'ai gardé contact jusqu'à 21 ans et j'ai arrêté parce que ma mère, elle est encore prostituée. Elle est encore sous la dépendance de la drogue. Elle a encore justement un pimp qui s'occupe de elle. Puis tu peux voir que comme elle est pas capable de prendre des décisions par elle-même.
Mm-hmm.
Puis, puisqu'elle n'a pas une certaine intelligence ou une certaine autonomie, c'était vraiment difficile pour moi d'avoir un lien, avoir une connexion qui était positive parce qu'à chaque fois que je retournais chez nous, je me sentais détruite, je me sentais anéantie, je me sentais « Ah, il faut que je coupe cette personne-là de ma vie.
Mm-hmm. »
Toute ma vie, j'ai voulu la rencontrer et quand je l'ai rencontrée, j'ai fait « Ah, j'ai compris maintenant pourquoi j'ai été adoptée. »
Pourquoi as-tu choisi le rire comme le principal médium de ta vie?
Ça, c'est la pandémie. La pandémie, écoute,
ah, ouais.
Je te jure, la pandémie a été un blessing pour moi.
D'accord.
Ça a vraiment changé ma vie au complet. Je suis massothérapeute depuis
D'accord.
12 ans. Et j'ai tout le temps été drôle, j'ai tout le temps été la comique. Tout le monde m'a tout le temps dit, fais de l'humour, fais de l'humour, fais de l'humour. Mais quand c'est mes amis qui me le disaient, tu sais, it's very biased. Fait que moi, j'étais comme, ah, ben oui, mes amis me trouvent drôle. Et là, la pandémie est arrivée et j'ai été mise non essentielle par le gouvernement. Puis je me suis retrouvée chez nous avec un chèque, j'étais comme, mais j'ai besoin de faire quelque chose, je suis travailleur autonome, je suis créatrice, j'aime faire des choses, puis là je me retrouve à la maison avec mon cellulaire et là TikTok explose.
Mm-hmm.
Et je décide de commencer à faire des vidéos humoristiques et là d'un coup c'est comme, le monde s'intéresse à moi, le monde me trouve drôle, puis c'est pas juste mes amis qui me trouvent drôle, c'est des inconnus qui me trouvent drôle, jusqu'à un certain moment qu'il y a des personnes de Montréal, des humoristes de Montréal qui me disent, hey t'es drôle, tu devrais faire de l'humour.
Mm-hmm.
Alors quand ça vient d'une personne qui fait ça et qui gagne de l'argent en faisant de l'humour, qui me le dit directement, j'ai commencé à le prendre sérieusement et j'ai fait « Oh! »
T'as cru.
OK. Mm-hmm. Je vais commencer à vraiment travailler sur ça, c'est quoi de l'humour, commencer à écouter des documentaires, des shows d'humour, des livres, comprendre c'est quoi et justement comment est-ce que moi, je peux passer un certain message avec l'humour parce que auparavant, je faisais des vidéos très sérieuses sur soit la sobriété, soit sur le racisme, mais le monde s'en foutait.
Mm-hmm.
Mais quand j'ai commencé à faire des vidéos plus humoristiques, c'est là que je gardais. C'est tellement plus facile de passer un message quand on dédramatise la chose.
Exactement, en rigolant. Ouais.
On en rigole un peu, mais avec un mini message subtil en même temps.
D'accord. Et dis-moi, quels sont tes sujets justement de prédilection? Puis de quoi tu parles dans tes derniers sketchs? Tu parles de quoi? Exactement?
J'aime beaucoup jouer le rôle de la fille blonde stupide qui
D'accord.
est très... Après, c'est quoi le mot? Maladroite avec la cuisine des autres. T'sais, j'ai été cette blanche-là avant.
D'accord.
J'ai été cette fille-là qui ne connaissait absolument rien parce que j'ai grandi dans un quartier, dans une école extrêmement blanche.
Mm-hmm.
Et quand le monde multiculturel s'est ouvert à moi, c'est là que j'ai réalisé à quel point de « Oh mon Dieu, j'ai manqué ça toute ma vie ». Et en justement... en essayant de justement m'introduire dans le monde multiculturel, on va faire des erreurs.
Mm-hmm.
Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les Blancs, lorsqu'on fait des erreurs, on le prend trop personnel et on ne veut plus avancer après ça. Et moi, je me suis dit, bah, je vais mettre mon ego de côté, je vais juste rire de moi-même. Puis j'ai vraiment appris à me développer en tant que personne, mais de vraiment rire de mes stéréotypes à moi. Alors, quand moi, je ris en ligne, je ris de mes propres stéréotypes. Et je fais tout le temps attention de ne jamais rire des stéréotypes qui pourraient mettre la vie d'une personne en danger. Qui blesse. Parce que si je ris d'une fille blanche qui est stupide, blonde et maladroite avec la culture des autres et que les Blancs ne savent pas cuisiner, il n'y a pas plus de Blancs qui vont se faire tuer à cause de la cuisine. Il n'y a pas de Blancs qui vont mourir d'une alimentation, tu comprends?
D'accord.
Mais si, admettons, je ris d'un Noir qui est un criminel ou que, tu sais, gang member, là, c'est vraiment dangereux. Fait que je fais vraiment attention que lorsque je ris d'un stéréotype, ça ne va pas mettre la vie de quelqu'un ou encourager ce stéréotype-là à tuer quelqu'un.
T'as écrit différents recueils. Maman, c'est quoi un immigrant? Et maman, c'est quoi le privilège blanc?
Ouais.
Pourquoi ce besoin, en tant que blanche, de combattre et d'informer sur ce sujet?
Parce que c'est des informations et c'est des livres que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune.
Mmh.
J'ai écrit ce livre-là comme si la maman, c'était moi. Quand le jour que je vais avoir des enfants, je veux les éduquer sur ces sujets-là. Et aussi comme si cette petite fille-là, c'était moi aussi. Tu sais, comment est-ce que j'aurais voulu qu'on parle de certains sujets? Parce que mes parents n'avaient pas le bagage, n'avaient pas cette information-là.
Mm-hmm.
Tu sais, j'ai appris c'était quoi le privilège blanc seulement avec mon premier copain haïtien, mm-hmm. qui a pris le temps de m'expliquer ces choses-là, parce qu'avant, personne n'en parlait, personne n'a pris le temps de m'en parler, puis c'est pas entre blancs qu'on va s'en parler. Alors,
c'est clair, ouais.
C'est clair, parce qu'on le prend tout personnel, puis on est comme dans le déni, mais non, ça n'existe pas, parce qu'on n'a pas, on n'est pas conscient, on ne comprend pas, un, c'est quoi le racisme, parce qu'on ne le vit pas nécessairement de la même manière, mais aussi, on se dit, mais non, on n'est pas si privilégié que ça, parce qu'on se dit, mais il y a encore d'autres blancs qui vivent d'autres choses. Fait que c'est comprendre c'est quoi le privilège blanc, c'est quoi comprendre le racisme, puis j'étais comme, oh, moi, toute ma vie, je n'ai pas eu accès à cette information-là. Je me suis dit, moi, je veux apprendre la prochaine génération, mais aussi les parents de maintenant. C'est quoi la prochaine... Tu sais, la communauté autour de moi, je veux leur faire comprendre qu'est-ce que moi, j'ai appris dans mes recherches.
Comment les Blancs autour de toi ont reçu ce message? Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils t'ont dit merci? Ou ils ont dit que tu étais une blanche à noir?
Une blanche à noir, oui, on va dire noir et non l'autre mot.
Ouais.
j'ai eu toutes sortes de réactions différentes, que ce soit du côté blanc et du côté noir.
Mm-hmm.
Positif et négatif dans les deux côtés.
Mm-hmm.
Côté blanc, oh, j'ai eu du monde qui ont dit, bon, elle essaie de nous culpabiliser et culpabiliser nos enfants. Puis ça, c'est du monde qui ne veulent pas apprendre et qui vont prendre toutes les choses au premier degré et personnel et justement ne pas avoir d'empathie, ne pas vouloir apprendre sur certains sujets. Puis t'as d'autres personnes qui sont comme, ah, c'est bien, moi, je vais l'acheter pour mes enfants à moi. Puis t'as aussi les Blancs qui sont comme, moi, mais t'es blanche, t'as quoi à parler du racisme, t'en veux pas. Mais c'est à cause qu'on ne comprend pas c'est quoi le racisme. Le racisme est une idéologie. Tout le monde peut en vivre, c'est juste à une échelle différente dans la société. Puis quand justement du côté la réaction des personnes noires ou des personnes racisées, c'est ils sont super contents. J'ai plus de personnes de couleur qui vont acheter mon livre que des personnes blanches. Puis l'autre côté qui est négatif, ils vont penser que je suis là pour me faire de l'argent sur une cause. Puis je comprends la peur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ces choses-là. Mettons, quand George Floyd est décédé, il y a du monde qui ont commencé à faire des t-shirts, mais ont rien redonné à la famille. Tu sais, fait que moi, je veux m'assurer que le monde comprenne que je fais ça pour m'éduquer la prochaine génération, mais que je redonne aussi $1 par livre à des organismes qui se battent pour la même mission que je fais.
Je t'ai rencontré, tu sais comment on s'est rencontré?
Oui.
Et là, tout d'un coup, je vois sur les médias sociaux un déluge de gens qui font des sketchs, enfin pas qui font des sketchs, mais qui te mettent en duo là sur TikTok. Et au début, je t'ai pas reconnu. J'ai regardé, puis c'était un moment, il y avait comme un zoom, je dis, ben, je la connais. Et puis, et là, j'ai du monde de la France, j'ai du monde des gens de l'Afrique, d'un peu partout, qui sont rentrés dans ton sketch, qui l'ont pris au sérieux, t'as fait un sketch. Raconte-nous déjà comment ça a commencé ce sketch-là de Fufu. Qu'est-ce que t'essayais de faire?
J'essayais de faire une parodie des influenceuses qui se pensent tellement meilleures que les autres sur les réseaux sociaux et qui pensent connaître tout. Et je joue cette femme blanche maladroite avec la culture des autres, mais vraiment exagérée. Alors, elle pense qu'elle s'y connaît. Elle dit, bon, salut tout le monde, ici votre influenceuse préférée, Gabby G. Aujourd'hui, on s'en va dans le pays de l'Afrique. Et on va préparer du fufu. Là, le monde, on capote.
Ah ouais, je vois tout le monde t'imiter la fufu. Mais pour qui tu te prends? Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, j'ai vu tout de suite que c'était une parodie. Mais j'ai pas compris quand la roue a commencé à tourner, quand tout le monde a commencé à recevoir la vidéo. Je pense que personne n'a pris le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention avec les médias, justement. On peut rentrer dans un engrenage sans se ressaisir et prendre le temps de vraiment voir ou de vraiment comprendre la vérité par nous-mêmes, de voir traiter les choses par nous-mêmes et se faire embarquer par l'envie le sentiment des autres. Mais c'était incroyable. Ça a duré combien de temps, tout ça?
Des mois que j'ai reçu des messages et des collages et des duos et des emails et du monde qui m'ont envoyé des menaces de mort.
Non, mais dis-moi, quand tu t'es rendu compte que tu étais viral, ça, c'était comment?
Écoute, je recevais plein de messages. Puis tu sais, je suis habituée que certaines vidéos vont aller à un certain niveau de partage ou des choses comme ça. Puis ce personnage-là était niveau de quelques mois. Mm-hmm. Et le monde ont vraiment trippé. Tu sais, Gabi, justement, qui donne des conseils de beauté ou des conseils de comment mettre ses souliers ou, tu sais, toutes sortes de choses. Là, elle était rendue dans la cuisine. Alors, elle touchait premièrement la culture des autres, mais la nourriture qui est extrêmement sacrée pour chacun. Mm-hmm. Et là, j'ai massacré l'emblème de l'Afrique. Là, j'ai vraiment pris un couteau et je l'ai mis dans l'Afrique et je l'ai tourné. Parce que je savais exactement comment piquer parce que j'ai beaucoup d'amis africains et je sais à quel point que le fufu, le foufou, le foutou est très important pour eux. Alors, tu sais, je me suis dit, ah, mais ça serait tellement drôle si cette fille-là, la blanche, elle essaye de le faire, mais elle fait toutes les erreurs que les blanches pourraient faire, comme en tant que beginner. Puis je l'ai faite, mais à fond, le monde a capoté. Puis après ça, quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'en faire d'autres. Mais c'est le niveau de ça continue, ça continue, ça continue. Et là, c'est...
Mais là, tu as vu que ça devenait viral.
Ça devenait...
Mais c'est à quel moment tu as compris que... Il y a comme un backlash, là. Il y a un truc qui se passe là.
Quand c'est devenu viral, c'est quand Taiki a fait le duo avec.
Oh, d'accord.
Quand Taiki, le chanteur camerounais français, a fait le duo, c'est là que j'ai fait « Oh my God, I made it ». Que j'ai eu accès à sa vidéo, que lui, il a fait « Moi, je vais faire un collage ». C'est là que, avant que Taiki le prenne, j'avais beaucoup de hate. Mm-hmm. Beaucoup de monde qui était contre moi. J'avais un groupe de Twitter qui était contre moi, qui voulait me... cancel, puis ils m'ont cancelé. En plus, ils m'ont vraiment fait perdre mon compte à 118K sur TikTok. Mais avant ça, tout le monde était contre moi. J'ai même une fille sur YouTube qui a fait une vidéo de 30 minutes pour me détruire en disant que j'étais raciste, un danger pour la société, que j'avais sûrement été blessée par un homme noir, puis c'est pour ça que je voulais détruire la communauté autour de moi. J'étais comme, mon Dieu, mais elle est folle. Mais c'est au moment que Taiki a fait sa vidéo que là, le monde a fait, ah, OK, on lui donne le respect parce qu'elle a été capable d'atteindre cette personne-là. Mais même à ça, il y a du monde qui ont fait, non, on la déteste, parce que le racisme existe dans les deux sens aussi. Bien c'est sûr, pas juste sûr. Les Blancs bien qui sûr, n'aiment pas sûr. Les Noirs. Les Noirs aussi ont de la haine envers les Blancs et c'est très compréhensible pourquoi. Mais c'est ça. Donc, ça Taiki a été comme l'élément, le top du top dans ma viralité.
Et ça s'est calmé à quel moment? Ça a duré des mois, ça s'est calmé
Après ça, je sors la vidéo de la checker. Là, ça devient pire, mais c'est vraiment foufou qui a explosé. Après ça, je décide parce que je continue à recevoir de la haine et je décide de faire une vidéo. Et ce n'est pas une vidéo que je m'excuse. Je ne m'excuse jamais dans la vidéo. Je fais juste expliquer mon personnage pour que le monde comprenne. Ça a calmé une certaine audience, mais en même temps, le monde qui était comme « Oh, on décide quand même de te détester », puis c'est ça que j'ai réalisé. Il faut que j'arrête d'avoir à prouver quelque chose ou de m'exprimer ou de m'expliquer pour les haters. Parce que ce que j'ai compris, c'est que « Haters don't want to get to know you, they just want to be right. » C'est ça que j'ai compris, puis je me suis dit « Ah, je vais arrêter de me battre avec eux, j'arrête de répondre à leurs messages, à me justifier, puis peu importe le nombre de livres que je vais sortir, peu importe le nombre d'argent que je vais redonner à des organismes pour combattre le racisme, ça sera jamais assez pour eux. » Tu sais, je me suis dit « Bah, tu me détestes, puis il y a rien qui va changer pour ça, donc moi, j'arrête de te donner de l'énergie. »
Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses.
Oh, c'était pas sérieux, ça?
Non, ça, c'était drôle. Je pensais que tu l'avais pris dur quand même, parce qu'à un moment donné, quand j'ai vu ça, je me suis dit, la pauvre. Et puis, quand j'ai fait une recherche, justement, j'ai vu que ton compte était annulé, tout
ça. Ça a été tough.
Ça, c'était dur.
J'ai travaillé très fort sur mon compte. Ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, j'ai tellement passé à travers de choses intenses dans ma vie que perdre un compte, c'est pas ça qui va me détruire. Je me suis dit, regarde, je vais pleurer pendant une journée, je vais trouver ça difficile, mais après ça, j'en fais un autre, puis c'est tout. It's just gonna make me stronger again. Puis je suis comme, il n'y a pas personne, c'est moi qui décide qui va m'atteindre dans mon énergie. Peu importe, quand je regarde le ratio, 80% du monde ont adoré et 20% du monde me détestait. Mais c'est les 20%, tu sais, le monde qui déteste, ils sont ensemble et ils travaillent tellement fort à te détruire. Mais 80% du monde, je te dis, c'est des créateurs de contenu, des influenceurs, du monde vraiment haut placé avec beaucoup de followers partout qui m'ont envoyé des messages privés pour me féliciter et dire « Continue, t'es bonne, on veut voir d'autres vidéos. » Ça, c'est du monde qui, grâce à moi, ont eu plus de viralité parce qu'ils ont partager la vidéo aussi.
C'est bon, c'est passé, ça a fait du buzz, comme on dit, hein. Ouais, mauvais buzz, bon buzz,
le monde me cherchait dans les rues. Ma sœur habite en Haïti et elle dit qu'il y avait du monde à l'extérieur qui parlait de moi, que le monde cherchait mon adresse, le monde voulait savoir d'où je venais, où j'habitais.
Dis-nous, où étais-tu le 11 juillet 2016 quand t'as mis un stop, t'as dit stop à l'alcool et stop aux drogues? Où étais-tu? Est-ce que tu te souviens de l'endroit? Mm-hmm. Et c'était quoi? Tu te souviens de l'endroit et pourquoi?
J'étais à Elmer, à Gatineau, mm-hmm. dans l'appartement de mon ex-copain, qui mm-hmm. était mon dealer de drogue. On était dans son sous-sol. Puis, ça faisait déjà quelques jours que j'essayais de me suicider en faisant des overdoses avec la drogue. J'étais vraiment à mon plus bas fond. Ça faisait 10 ans que je consommais, mais là, dans les derniers mois, ça a été les pires mois de toute ma vie. J'étais dépendante à la cocaïne. Je devais en prendre à tous les jours. Dès que je me levais le matin, je devais en prendre. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus les dents, je ne me lavais plus dans la douche non plus. Puis, c'était rendu à un tel point que je voulais mourir. Donc, j'étais tellement tannée dans cette relation très abusive avec cet homme très contrôlant. Et le monde autour de moi me voyait en train de me détériorer, mais plus qu'il essayait de m'aider, plus que je me cachais. Puis, cet homme-là, très, très, très toxique, j'ai l'impression qu'il allait peut-être m'amener dans le trafic de sexe.
D'accord.
Puis, moi, je voulais juste mourir. Je voulais juste mourir. Je souffrais tellement à l'intérieur de moi. Je ne voyais pas d'autres portes de sortie. Puis, cette journée-là, après plusieurs soirées à essayer de faire un overdose en prenant beaucoup de drogue et en me disant, bon, ben ce soir, c'est la soirée, je vais mourir, je vais prendre plein de drogue, je vais partir, mon cœur va exploser, puis un point, c'est tout. Puis, j'étais bien avec cette décision-là. Mais à chaque matin, je me levais, finalement, ça n'avait pas fonctionné. Plein de problèmes de santé, j'étais vraiment mal en point, j'étais méconnaissable. Et cette soirée-là, je décide de passer à l'acte, je veux me suicider et je décide d'écrire une lettre de suicide. Et puisque la drogue, je suis tellement habituée à en faire à tous les soirs, à tous les jours, je décide que je veux me gazer dans le char de mon ex. Okay. Parce que je veux qu'il me trouve le lendemain. Mm-hmm. Je veux qu'il se sente responsable pour ce qu'il m'a créé. Parce qu'encore une fois, je suis pas capable de prendre la responsabilité pour mes actions, mm-hmm. pour ma décision de rester en couple avec lui, d'avoir pris cette drogue-là. Tu sais, mm-hmm. j'ai ma part de responsabilité, mais moi, tout ce que je voyais, c'est de sa faute à lui. Il m'a manipulé, il a pris avantage de moi, mais j'étais pas prête à l'avouer. Je voulais juste mourir. Et j'ai voulu me suicider. Et j'ai grandi dans une famille très catholique. On allait à l'église. J'étais même un enfant de cœur qui servait l'église en avant. Mm-hmm. Puis, à ma rébellion, à 13 ans à peu près, je décide d'arrêter d'aller à l'église parce que je commence à souffrir. Puis, je me dis, ben, si Dieu existe, il ne me ferait pas souffrir. Mm-hmm. Donc, je deviens un petit peu athée pendant plusieurs années. C'est là que je tombe dans la drogue et la dépression. Et au moment que je décide de passer à l'acte, en pleine nuit pendant que mon copain dort, mm-hmm. je vois une illumination en avant de moi. Mm-hmm. Et je vois Dieu qui commence à me parler. Puis, obviously, là, je suis gelée. Mm-hmm. Mais je sens et je vois une chaleur qui me dit que je ne peux pas mourir, je ne peux pas passer à l'acte parce que quelque chose de plus grand, un destin incroyable s'en vient pour moi. Puis il faut que je survive, il faut que je sois capable de passer par-dessus toute la douleur que j'ai faite pour avoir ce destin-là que je mérite. Puis je tombe sur mes genoux à terre et je commence à pleurer et je me dis, OK, j'accepte ton aide. Puis j'étais tellement obstinée à tout faire par moi-même, à être très égocentrique, à être très la victime dans tout ce que je faisais. Mm-hmm. Et à ce moment-là, quand j'ai voulu mourir et à passer à l'acte, l'amour de Dieu est rentré à l'intérieur de moi et je me suis dit, bon, je vais juste tout lâcher prise et accepter l'amour et accepter l'aide autour de moi. Et le lendemain, je suis allée chercher de l'aide à ma famille pour quitter mon copain, aller en maison de rétablissement, aller chercher de l'aide professionnelle avec des psychologues et aller chercher de la médication pour m'aider avec mon cerveau pour me remettre sur le bon chemin.
Et ça a pris combien de temps tout ça?
Oh mon Dieu, ça a pris beaucoup d'années. Ça a pris beaucoup d'années. J'ai 6 ans maintenant, je n'ai plus de séquelles. J'ai une belle dentition, j'ai une bonne estime de moi, j'ai travaillé très très fort sur moi, j'ai une bonne mémoire maintenant. Mais dans les débuts, problème de peau, beaucoup de boutons, mauvaise alimentation. Je parlais même pas avec un beau vocabulaire comme que j'ai en ce moment. C'était vraiment très un vocabulaire trash de ruyo, style genre wow, fuck you. T'sais, c'était wow, vraiment comme ça. C'était vraiment dégueulasse. Même mes parents, ils avaient honte de moi quand que je parlais. Puis beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes d'attitude. Je prenais tout personnel et j'étais une personne très violente. Je me battais avec le monde autour de moi. Alors quand je suis arrivée en maison de rétablissement, j'étais supposée rester là 3 mois, mais je suis restée là 1 mois à cause de mon comportement qui était trop violent. Le centre de rétablissement ont décidé de me sortir de là parce que j'étais un danger pour les autres qui essayaient de se rétablir. Et quand ça s'est arrivé, parce que je me battais physiquement avec les hommes, quand ça s'est arrivé puis ils m'ont mis dehors, je me suis dit « Oh shit, j'ai mordu la main qui voulait me nourrir. Je me suis mis moi-même dans la merde. J'ai voulu aller chercher de l'aide et là, je leur ai craché au visage. J'ai fait « Là, je me retrouve à la rue. Là, je me retrouve sans aide professionnelle. Là, je me retrouve que je pouvais retourner dans la drogue. » Puis j'ai tellement souffert que je me suis dit « Je ne veux jamais retourner là où j'étais avant. » Puis après ça, je suis tombée dans les meetings de Narcotiques Anonymes, Alcooliques Anonymes. J'ai rechangé mon groupe social au complet. Tous les amis, les drug dealers, les gars qui voulaient coucher avec moi. J'ai effacé mon Facebook. J'en ai refait un au complet. J'ai reconnecté avec mes amis d'enfance. J'avais juste quelques amis autour de moi, le monde qui était sobre et abstinent. Puis tranquillement, j'ai recommencé à vivre. J'ai retourné à l'école. J'ai trouvé un emploi stable. Trouver un appartement, acheter ma première voiture. T'sais, j'ai finalement commencé à être un adulte à 26 ans. J'ai commencé la drogue à 16 ans. Et quand j'ai eu 26 ans et que j'ai arrêté, c'est comme si je recommençais à 16 ans ma vie. Je suis comme, OK, je suis encore une ado dans ma tête, mais il faut que je réapprends comment vivre, comment faire mon lit, comment faire de la cuisine, comment payer mes billes, comment faire toutes ces choses-là. J'étais comme... 10 ans de ma vie, j'ai perdu parce que je faisais de la drogue.
Et j'ai vu que l'année dernière, l'hiver dernier, en 2022, t'as fait une levée de fonds.
Oui!
T'as fait une levée de fonds pour les...
Les personnes en situation d'itinérance,
voilà,
oui.
Pour, comment dire, en gros, on dit les clochards.
Oui, les sans-abri, oui.
Les sans-abri,
ouais,
voilà. Ouais. Donc, explique-nous un peu comment tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait. Explique-nous un peu les étapes par rapport.
Oui, j'ai moi-même été en situation d'itinérance pendant 1 an et j'ai dormi dehors la nuit en hiver. C'est vraiment pénible et difficile, surtout en tant que femme. T'sais, on est vraiment à la mépris des hommes qui pourraient nous violer et nous battre et nous tuer. Puis, il y a eu une grosse tempête d'hiver qui arrivait, qui était annoncée. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu. Moi, je commençais à suivre Annie Archambault, qui est sur le bord de la ligne. Puis, elle est, elle aussi, une ancienne toxicomane, une ancienne personne qui vivait dans la rue. Et elle est travailleuse de la rue, donc elle aide justement les personnes. Et elle fait beaucoup de vidéos éducatives sur ça. Et elle a fait, t'sais, si vous êtes capable de donner, de juste acheter des hot packs, des affaires chaudes que vous pouvez donner, des petites collations, un chocolat chaud, un café, n'importe quoi, ça va les aider parce que la tempête arrive. Puis j'ai fait « Oh, c'est vrai! » J'avais complètement oublié parce que là, je me suis concentrée sur moi pendant plusieurs années puis j'avais pas d'énergie à donner aux autres. Et là, je me suis dit « Je suis enfin stable. » C'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire, mais je me suis dit « Il faut que j'attende d'être stable moi-même avant de redonner aux autres parce qu'il faut que je priorise mon énergie. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Tu sais, avant de faire ce vidéo-là, je faisais déjà des petites actions, mais je les filmais pas. Tu sais, quand il y avait des canicules, j'achetais une grosse caisse d'eau, je m'arrêtais dans des endroits, je les donnais. Tu sais, des fois, je donne de l'argent, des fois, je donne de la nourriture, des fois, tu sais, n'importe quoi, mais j'ai jamais vraiment filmé parce que j'étais comme, I don't want to be that girl on social media. C'est comme, qui brague sur comment je donne. Mais là, j'ai décidé de aller au Dollarama, acheter 100$ de produits qui allaient aider justement des trucs, des gants, des bas, des trucs pour se réchauffer. J'ai fait un mini vidéo, je l'ai donné, sans montrer les personnes en situation d'itinérance parce que je veux garder justement leur anonymat et leur dignité en même temps parce que c'est vraiment difficile d'être dans la rue. Puis, quand j'ai fait cette vidéo-là, le monde sont arrivés sur les réseaux sociaux, moi aussi je veux participer. Puis je m'attendais pas à ça, c'était pas ça mon but, c'était juste comme juste conscientiser et influencer les autres à vous pouvez le faire vous aussi. Mais ils ont dit nous on n'est pas confortable à le faire, si moi je t'envoie de l'argent est-ce que tu peux retourner au Dollarama? J'ai fait mais oui absolument. Puis là j'ai commencé à recevoir ça, puis j'étais comme ok c'est beaucoup d'argent qui arrive, je vais faire un GoFundMe. J'ai été capable de ramasser beaucoup d'argent, puis là je me suis associée avec certaines personnes qui ont voulu m'aider physiquement à le faire. Mon argent, j'ai aussi été m'associer avec des restaurants haïtiens pour justement aider leur entreprise pendant la pandémie à avoir de l'argent puis à faire de la nourriture, mais en plus prendre cette nourriture-là et la redonner aux personnes dans la rue. Donc ça a été vraiment une onde de choc, d'amour, d'empathie, de monde qui voulait vraiment aider à leur manière sans vraiment être sur le terrain parce que on le sait pas quoi faire.
Comment le faire?
Non, c'est ça.
D'accord. Alors, pour changer, dis-moi, quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi?
Je t'avais écrit, là, puis ça va toujours être Austin Powers. J'ai grandi en écoutant des comédies. Moi, j'aime tout ce qui est silly, qui est stupide, qui est d'humour, pipi, caca, pénis, vagin. Moi, j'aime ça. Fait que, tu sais, Austin Powers, là, ça a tout le temps été mon idole. Je regardais ça quand mes parents, ils voulaient pas, ils disaient, devrais pas regarder ces films-là. Je m'en fous. Puis j'aimais trop ça, comment est-ce qu'ils changeaient de personnage. Puis sais-tu quoi? J'ai seulement appris en tant qu'adulte que Austin Powers jouait tous les rôles.
Ah, c'est plus tard que tu l'as appris.
C'est plus tard! J'avais l'air tellement stupide et naïve parce que je pensais que c'était tous des acteurs différents.
D'accord.
Je te jure, oh non, j'étais stupide avant. Moi, j'ai aucune honte à le dire. Je n'étais pas une personne intelligente. Puis, tu sais.
Peut-être que tu étais un peu distraite. Tu faisais pas attention.
Mais j'étais pas bonne à l'école, tu sais. Je voulais juste être clown. J'aimais pas apprendre. J'aimais pas être dans mes livres. Moi, j'étais juste plus comme, donne-moi de la validation autre que par mes notes. Fait que, tu sais, moi, j'aimais être cool. J'ai appris très vite à comment être cool au secondaire. Qu'est-ce qui est cool? Faire de la drogue, faire du skate, écouter des battes de métal, tu sais, faire se battre. Fait que c'était comme, ok, moi, je voulais l'approbation de mes camarades autour de moi, mais pas des adultes, parce que les adultes, je leur faisais pas confiance. Donc, moi, rendre mes parents fiers, je m'en foutais. C'était rendre mes amis qui font du pot fiers, tu comprends? Les priorités n'étaient pas là. So, ouais, mais Austin Powers a tout le temps été un classique. J'aime ça le réécouter une fois de temps en temps parce que les jokes sont tout le temps bonnes. Ils sont tout le temps stupides et bonnes et j'adore.
Ils en avaient fait quoi?
Trois.
Le 1 et le 2, j'avais aimé le 3, je sais plus. Hein.
Non, mais le troisième est moins bon, mais ils sont juste trop stupides. C'est vraiment ce humour-là que j'adore.
Et quelle est ta chanson préférée de tous les temps et pourquoi?
Ah, Seul au monde avec Corneille.
Je comprends.
Je pense que tout le monde comprend. Tout le monde comprend, mais moi, c'est l'histoire qui vient avec. Mes parents m'ont acheté ce CD-là quand j'étais au secondaire, ma partie la plus difficile. J'ai commencé à être suicidaire au secondaire. Et c'est un CD que j'écoutais on repeat. On repeat. Puis les moments les plus difficiles de ma vie, j'écoutais son CD et son CD au complet, je le connais par cœur. De Seul au monde. Puis encore aujourd'hui, je le réécoute. Je le chante à tue-tête, même si j'ai pas une bonne voix. Mais en situation d'itinérance, là aussi, ça a été le CD que je réécoutais le plus pour me sentir bien. Parce que je me connectais avec Corneille d'une certaine manière, parce que lui, qu'est-ce qu'il a vécu au Rwanda, qu'est-ce que justement, toute la guerre, toute la douleur. Quand quelqu'un parle de douleur, c'est seulement une autre personne qui a connu la douleur qui va être capable de le comprendre aussi.
Mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits, chaque jour qui se lève.
Alors maintenant, on va passer à l'entretien identité. Ok. Donc, quelle influence a ton adoption dans ta vie de tous les jours?
Ça a tellement d'influence sur plein de choses différentes, sur Tu sais, pendant toute ma vie, je ne savais pas à qui je ressemblais. Moi, j'ai grandi avec des parents, un papa québécois, une mère portugaise, et eux, ils ont eu 5 enfants. Cinq enfants à eux. Je suis la seule adoptée là-dedans. Okay. Puis, tous les enfants se ressemblent, mais ils sont quand même européens. Alors, moi, quand je suis dans les photos, ça paraît pas que je suis adoptée, mais moi, je le sais. Puis, tu sais, le monde ne le comprend pas, c'est pas ma réalité. Elle n'est pas aussi flagrante que, admettons, une personne qui aurait été adoptée de Haïti, qui aurait été adoptée dans une famille européenne ou blanche. Tu sais, donc, ça passe inaperçu aux yeux des autres, mais moi, je l'ai ressenti énormément parce que je me sentais très différente, non seulement parce que j'ai eu des séquelles de drogue et d'identité et de maladies mentales quand j'étais jeune, mais aussi parce que je me reconnaissais pas dans les autres. D'un œil extérieur, le monde trouve que je ressemble à mes sœurs, mais moi, je sais que je ne ressemble pas à elles. Alors, je suis comme, mais qui suis-je? Je cherchais ma mère biologique pour savoir à quoi je ressemblais. Mon père, je saurais jamais c'est qui, parce que c'était un client de prostituée. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, pendant très, très longtemps, je me cherchais, puis c'est pour ça que je me suis revirée dans la drogue, parce que je ne comprenais pas qui j'étais, mais je comprenais pas qu'il fallait que je fasse du travail personnel. C'était juste, je souffre, je veux pas souffrir. Quelle est la solution la plus rapide pour enlever ce mal? Et j'ai trouvé ça dans la drogue, parce que ma mère a consommé de la drogue pendant qu'elle était enceinte de moi. Alors, moi, la première fois que j'ai consommé de la drogue, c'est comme si je me reconnectais avec ma mère, et comme dans le temps que j'étais un embryon. Alors, pour moi, c'était un endroit très confortable et naturel pour moi d'être dans la drogue. C'est comme si j'avais retrouvé finalement quelque chose que j'avais perdu toute ma vie, qui manquait à ma vie. Mais c'est une question aussi d'identité parce que, tu sais, j'ai grandi dans une famille québécoise-portugaise. Oui, c'est multiculturel, mais en même temps, qui suis-je? C'est quoi mon héritage? C'est quoi mon antécédent médical aussi? Je le saurais jamais. Puis, c'est drôle parce que toute ma vie, on pensait que j'étais italienne. Parce que sur les papiers, ça disait que ma mère biologique avait émigré de l'Italie pour venir ici. Et c'est en prenant mon test d'ADN que j'ai réalisé que je suis allemande. Et on a finalement fait les recherches pour comprendre que ses parents, elle, étaient allemands et à cause de la Deuxième Guerre mondiale, se sont déplacés en Italie. Alors moi, toute ma vie, je me regardais dans le miroir, je suis comme, mais ça, c'est un visage italien. Alors je me suis dit, je suis italienne, j'ai voulu justement m'éduquer sur la culture italienne. Et là, finalement, je reçois mes tests, je me reconnaissais plus dans le miroir parce que moi, je me suis vendue l'idée que j'étais italienne. Et à chaque fois...
Tu l'as cru, quoi.
Je l'ai cru, et à chaque fois que je rencontrais du monde italien, je suis comme, moi aussi, je suis italienne. Fait que je cherchais à me connecter avec les autres. Puis là, finalement, je me suis dit, mais je suis un mensonge, je suis une fraude. Tout ce que j'ai dit, là, il va falloir que je redonne ma vraie identité à tout le monde. Puis quand il me faut que j'explique à tout le monde, finalement, je suis pas italienne, je suis allemande, mais j'ai l'air une personne pas fiable. Tu sais, j'ai l'air que mes, tu sais, que ma parole n'est pas bonne. Ça m'a pris du temps à accepter. J'étais comme, oui, qu'est-ce que je suis allemande? Je suis allemande genre à 89,9%.
Wow, d'accord.
Tu sais, c'est vraiment allemand, mais je suis comme, OK, bon, ben moi, je suis allemande. Mais je suis comme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, je suis comme, je sais pas. J'ai pas voulu chercher plus sur, à ce moment-là, sur c'est quoi être allemand. Tu sais, j'ai tout le temps aimé l'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, justement, par rapport à la douleur des autres. Moi, j'aime beaucoup lire et apprendre sur l'histoire de la douleur des autres parce que je peux me connecter là-dessus. Mais j'étais juste, l'identité culturelle n'est pas si importante que ça, finalement. Je vais juste être qui je suis. Tu sais, je m'identifie en étant multiculturelle. Puis c'est ça, j'ai pas besoin de m'approprier ou de absolument dire que je suis quelque chose plus qu'un autre. Je suis moi, je suis Gabi.
D'accord, très bien. Et quelle conception de la beauté as-tu dans l'autre? Qu'est-ce que pour toi est la beauté dans nous, dans une autre race, dans une autre personne? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui représente la beauté chez l'autre?
Tes actions. Tes actions, tes paroles, tes gestes, ton ouverture d'esprit. Ce n'est vraiment pas le physique, mais vraiment, vraiment pas. Parce que j'ai été la société fait en sorte que la beauté, c'est extérieur. Je n'étais jamais d'accord là-dessus. Puis pendant une période de ma vie, j'étais extrêmement laide et je me trouvais laide. Puis même quand je me suis rétablie, j'ai commencé à être belle, mais moi, je me trouvais pas belle. C'est quand j'ai commencé à travailler sur moi que le monde a commencé à voir « Oh, elle, elle est belle de l'intérieur et on veut se rapprocher de elle. » Puis c'est là que j'ai vraiment compris que la beauté n'a rien de physique et de visuel, mais vraiment de tes actions, qui tu es, qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour aider ton prochain.
Et penses-tu que l'identité d'un individu est basée sur d'où il vient ou d'où il vit?
De ce qu'il veut. De ce que lui, il veut. Tu sais, tu peux avoir, être né dans un pays, mais que tes parents viennent d'un autre pays et toi, voyager le monde au complet. Moi, je sens que c'est vraiment toi ce qui fait vibrer ton cœur. J'adore la culture haïtienne, mais je peux pas dire que je suis, tu sais, je m'identifie en tant qu'haïtienne. Mais j'adore la culture. Tu sais, l'identification est quelque chose de tellement superficiel là aussi, mais je trouve que c'est vraiment toi, comment est-ce que toi tu veux. C'est encore mettre du monde dans des cases, qui est vraiment l'idéologie du racisme. Tu sais, qui est une race séparée, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là. Puis je trouve que c'est tellement plus que ça, l'identité. C'est comment est-ce que t'es capable de connecter avec les autres au lieu de juste garder à toi tout seul en tant qu'une race. C'est comment multiculturel que tu peux être.
Choisis un chiffre entre 1 et 10.
4.
Où te vois-tu dans 4 ans?
Oh, intéressant! Oh mon Dieu, dans 4 ans, j'espère avoir arrêté la massothérapie. Mm-hmm. Ça fait déjà 12 ans que je fais ça. Je suis fatiguée. Mm-hmm. S'il y a des clients qui écoutent, écoutez, je vous adore, mais je suis fatiguée de vous masser!
Ah,
mon corps est fatigué. Okay. Ça ne me passionne plus. J'ai tout le temps aimé les autres physiquement, mais là, je suis rendue qu'à un autre niveau. Je veux grandir en faisant des choses qui vont aider intellectuellement les autres, mais moi aussi encore plus. Et je suis rendue que je veux passer plus de temps devant mon ordinateur à apprendre des choses et avoir des conversations avec du monde, puis voyager. Je me vois faire des conférences sur la prévention de drogue et d'alcool un peu partout, faire des conférences sur le privilège blanc. Je veux vraiment éduquer le monde autour de moi là-dessus. Je me vois voyager dans plein de pays, je me vois être très stable financièrement, j'aimerais être en couple et avoir des enfants. J'aimerais au moins avoir mon premier enfant. J'aimerais vraiment avoir un enfant. Ouais. Ça, c'est ça.
Gabi, merci.
Merci.
Ben voilà, on est à la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et un grand merci à Gabi, à LP, et encore une fois à LP. Abonne-toi, like et partage. Lâche-moi 5 étoiles si tu es sur Apple Music ou un commentaire si tu utilises des plateformes telles que Spotify, Google Podcast et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte énormément sur toi. Suis-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésite pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast@gmail.com. À chacun son histoire. Mais quelle histoire! À toi de le découvrir dans le prochain épisode. Ciao, ciao!